Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La pandémie de Covid continue d'avoir, 4 ans après, des conséquences sur notre quotidien, pour l'emploi, pour l'économie et dans le domaine de la santé. Certains retards dans les soins ne sont toujours pas résorbés, certains métiers sous-dotés. Et cela rejoint notre sujet du jour. Cette crise sanitaire a eu un autre impact qui ne s'est toujours pas démenti, loin de là. Il s'agit de la désinformation en santé. L'épidémie de Covid a donné lieu à différentes vagues, différentes formes de fake news, traitements, vaccins, réalité du risque. Doutes et contre-vérités ont été aussi nombreux que variés et amplifiés par la force de frappe des réseaux sociaux. La désinformation en direct est venue télescoper le temps scientifique et les données sourcées. Un message d'autant plus confus que certaines de ces fake news en santé ont pu être portées par des personnalités publiques recrutées, y compris au sein de la sphère médicale. Notoriété et démagogie ont éclipsé les prudences légitimes et les préconisations impopulaires. Mais cette désinformation en santé ne se conjugue pas uniquement au passé, bien au contraire. Si le Covid a perdu en virulence, les affabulations et l'agressivité, elles, ont gagné en force. Et aujourd'hui, des médecins se réunissent pour réclamer une riposte, pour obtenir les moyens, pour en finir avec l'impunité bien réelle des vecteurs comme des contenus de désinformation en santé. Quelle stratégie contre les fake news ? Expliquer, sanctionner ? Comment expliquer l'adhésion du public à cette désinformation ? Un collectif de médecins et de chercheurs a signé une pétition le mois dernier dans le magazine français L'Express pour en finir avec cette propagande impunie de fausses nouvelles médicales. Et au nombre des signataires, on vous retrouve. Vous êtes avec nous en studio. Docteur Laurent Chouchana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pharmacien hospitalier, responsable du Centre régional de pharmacovigilance de l'hôpital Cochin à PHP à Paris. On va retrouver tout à l'heure en ligne le professeur Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à PHP à Paris. Il avait été taxé d'enfermiste pendant la crise du Covid, menacé également. Il plaide notamment pour une meilleure formation pour lutter contre l'infodémie. Utiliser les réseaux sociaux pour lutter contre les fake news sur les réseaux sociaux. Nous donnerons la parole au docteur Nicolas Winter, praticien hospitalier aux urgences pédiatriques du centre de Valenciennes, qui publie son guide pour trier le vrai du faux en pédiatrie. Le bisou magique existe-t-il aux éditions First? Et puis au Cameroun, le regard du docteur Ems Nkwa. Elle est médecin épidémiologiste à Yaoundé, fact-checkeuse spécialisée en santé. On la retrouvera en deuxième partie d'émission.
Priorité santé sur RFI.
Tribune donc à la fin du mois de février pour mettre fin à l'impunité, un petit peu siffler la fin de partie, dire ça suffit en matière d'information médicale, docteur Laurent Chouchana. Un mois et demi après, est-ce que cette pétition, donc, qui a été publiée par le magazine L'Express, est-ce qu'elle a été suivie des faits ?
Bonjour, merci de votre invitation. En tout cas, elle fait parler d'elle. Elle fait parler d'elle, c'est une pétition qui commence à faire du bruit, et c'est tant mieux, parce qu'on est, comme vous l'avez dit, dans une situation particulière. Le Covid et toute la période Covid a été propice à la diffusion de fake news, de fausses informations, enfin, on pourra revenir là-dessus, de manière complètement exponentielle, avec un développement des contenus sans précédent. Tout cela possible, bien sûr, grâce à des plateformes d'information, à des réseaux sociaux, et qui parfois d'ailleurs sont bénéfiques, hein, faites attention. Mais c'est vrai qu'on a eu un virage, je pense qu'on a eu un virage avec la diffusion de tout cela, et on a senti le besoin de réaffirmer le fait que la science est quelque chose de particulier, l'information médicale est quelque chose de particulier, on a tous une responsabilité collective là-dedans, et probablement qu'il y a des sanctions qui devraient être appliquées qui ne le sont pas.
Ça veut dire qu'on va le voir, il peut manquer certains outils législatifs, précisément sur l'agenda des parlementaires français, 19 mars à l'Assemblée nationale, 3 avril au Sénat, projet de loi de lutte contre les dérives sectaires, notamment création de nouveaux délits pour provocation à l'abstention de soins médicaux. Alors quel est le regard que vous portez, vous, sur ces débats, surtout peut-être sur cet arsenal actuel ? On a quoi pour lutter contre la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux ?
Alors, on a des choses. Hein. On a quand même un arsenal en France législatif qui est important. On a des moyens. On a quand même le sentiment qu'actuellement, ce n'est pas assez appliqué. On a le sentiment quand même que les ordres n'ont pas pris leurs responsabilités. Probablement les autorités sanitaires, l'agence du médicament, le ministère de la Santé. On a quand même le sentiment qu'il y a eu une parole qui a diffusé, qui s'est laissée diffuser, y compris d'ailleurs dans les médias grand public. Hein. Je le dis ici, sans parler bien sûr de votre média, mais il y a différents médias grand public, notamment la télé, quelques radios, qui ont promulgué, qui ont fait le lit de ces fake news.
C'est même quasiment devenu leur ligne éditoriale pour certains. Voilà, on ne va pas citer des chaînes parce que ce n'est pas l'objet, mais effectivement, certaines voies du conspirationnisme et d'une certaine désinformation en santé ont leur entrée sur certaines chaînes de télé ou certaines radios. C'est une réalité aujourd'hui.
C'est une réalité et en fait, c'est assez simple parce que ça rapporte. Ça rapporte de l'argent, ça rapporte de l'audience, ça rapporte plein de choses à ceux qui les promulguent. Hein. Il faut toujours se méfier en fait, des personnes qui ont un discours médical qui va être en opposition par rapport à une communauté médicale, une communauté scientifique, hein, celui qui va apparaître un peu comme le gourou, quelque part. Se méfier en tout cas de ces personnes qui ont des postures très, très à rebours de la communauté. Et puis, ça rapporte aussi pour les plateformes, pour les médias. Hein. Vous savez que les plateformes numériques, YouTube, Facebook, etc., gagnent de l'argent. Leur modèle, c'est avec le clic, de gagner de l'argent avec du clic, avec des pubs. Et puis, ces contenus sont mis en avant, bien sûr, parce qu'ils font du clash, comme on dit, ils font du buzz. Et donc, ils permettent de rapporter plus de clics et donc plus d'argent aux plateformes et puis à ceux, bien sûr, qui les diffusent.
Avec une illustration, hein, justement, des fake news, il y a aussi du harcèlement. C'est arrivé récemment à un de vos collègues médecins, cancérologues, insulté par un célèbre rappeur, à la clé partage par des millions d'abonnés, message de haine, une forme de meute d'internautes, médiatisation d'un emballement. Pour ce cas précis, docteur Laurent Chouchana, pas vraiment de sanctions jusqu'à présent. Ça passe.
À ma connaissance, ça passe. Ça passe, donc tout à fait.
Il a été question de création d'un délit d'outrage, justement, pour protéger les soignants des agressions. Docteur Chouchana, est-ce que les autorités de santé et judiciaires sont passées des paroles aux actes? Est-ce qu'on avance sur ce terrain?
J'ai pas l'impression. En tout cas, on sait que le temps judiciaire est long et c'est quelque part normal, mais on a l'impression quand même que avant que la démarche judiciaire commence, il y a quand même beaucoup de temps qui se passe. On commence maintenant à voir des sanctions. Il y a récemment une pharmacienne de Nouvelle-Calédonie qui a été sanctionnée par l'Ordre des pharmaciens pour avoir diffusé des fausses informations sur les vaccins et puis finalement éloigner la vaccination des patients à elle. On commence comme ça à avoir des sanctions qui apparaissent, mais ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps. Et on a l'impression que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas assez d'appropriation, en tout cas par les autorités, par la justice, pardon, d'appropriation de l'arsenal actuel.
Alors, on voit qu'il y a des cas particuliers, mais c'est vrai que sur le fond, il y a vraiment une remise en cause générale de la parole scientifique, on va y revenir. On retrouve un spécialiste des maladies infectieuses qui est aussi un journaliste médical. Professeur Gilles Pialoux, bonjour.
Bonjour, merci.
Alors, je le disais, chef de service des maladies infectieuses tropicales à l'hôpital Tenon à PHP, à Paris, rédacteur en chef de VIH.org, également romancier, et vous avez été personnellement menacé, hein, vous, on va dire le grand professeur spécialiste du VIH, pour avoir fait part de vos connaissances dans les médias au sujet du Covid, on le rappelle qui est quand même une maladie infectieuse, donc accessoirement c'est votre spécialité. Quel type de pression, quel type de menace avez-vous reçu?
Enfin, j'allais dire, je ne suis pas le seul. Moi, j'ai reçu, effectivement, vous avez raison, parce que dans le sujet des fake news, il y a le fait que nous, on n'a pas été préparés. Alors, le Covid était amplifié, quelque chose qu'on avait déjà vu un peu avec le sida. Donc, effectivement, la diffusion des fake news à forte intensité. Moi, pour ma part, bon, j'ai reçu des menaces, voilà, des balles de long rif avec des lettres de menaces de mort. J'ai été hacké sur mon groupe Facebook. Bon, je ne suis pas le seul à faire ça. Hein.
Non, mais en même temps, c'est à vous qu'on parle.
Avec une croix gammée sur le front.
On sait qu'il y en a eu d'autres, professeur Pialoux, mais c'est à vous qu'on donne la parole aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout vous mettre en avant de manière outrancière, mais c'est bien parler d'un cas, d'une illustration particulière. Quand même, quand on reçoit une balle de fusil chez soi, bien sûr, je ne suis pas une spécialiste des armes, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va porter plainte? Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, on porte plainte. Alors, c'est plus compliqué. Bon, la plainte, je vous tranquillise, j'ai porté plainte il y a maintenant presque un an. Oui, c'est ça, plus d'un an. Il n'y a pas eu de suite. Bon, voilà, après, on ne vit pas avec un gilet pare-balles. Mais je voulais rajouter par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que c'est un peu compliqué. Ce que dit mon collègue tout à l'heure, qui a juste titre, c'est que, par exemple, on a un conseil de l'ordre. qui est censé quand même nous défendre les soignants dans leur expression. Mais là, en février, il y a Jérôme Marty, qui est un de ceux aussi qui a été probablement le plus menacé, qui a eu un blâme par Bigard et Lalanne. Vous voyez qu'on était deux suppôts.
Il faut que j'explique pour nos auditeurs qui sont très loin. J'explique. Jérôme Marty, c'est un représentant syndical de la médecine libérale qui s'exprime beaucoup dans les médias. D'ailleurs, on l'a eu souvent à cette antenne de Priorité Santé. Et les deux personnages que vous avez cités, c'est un soi-disant comique et un soi-disant chanteur qui prennent la parole avec la meute des conspirationnistes de longue date et depuis le début. Ils démentent point par point tout ce que disent les scientifiques. C'est leur point de vue. Il y a le point de vue scientifique qui est avéré par la preuve, par les tests, par la connaissance scientifique. Et eux, en tant que chanteurs et humoristes, viennent contredire la parole de personnes qui ont fait des années, voire dizaines d'années d'études de médecine. Et ce médecin donc qui défend sa chapelle avec un verbe cru, moins cru que celui de ses adversaires, se retrouve sanctionné. Voilà, j'ai un petit peu résumé. Un blâme, c'est pas n'importe quoi.
Mais il faut savoir aussi que moi, ça a été, puisque vous m'avez mis à la question, c'est vrai que je suis beaucoup apparu sur les médias au moment du Covid, notamment en 2020, et ce qui a expliqué effectivement que je me suis retrouvé avec les anti-vax, etc., en conflit en France et dans d'autres pays francophones. Mais il faut savoir que la chose ne s'est pas éteinte et que un médecin ou deux médecins ou trois médecins n'a pas les moyens de faire la balance de ce qui circule au niveau des réseaux sociaux. Je vais prendre un exemple tout récent, si vous permettez. On croit que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Sur les réseaux sociaux, ça continue. En janvier 2024, donc on est tout près, il y a eu un post autour de la fake news que les vaccins Covid, toujours eux, donnerait l'encéphalopathie de Creutzfeldt-Jacob. Je ne sais pas si on se rappelle ce que c'est que le Creutzfeldt-Jacob.
C'est la maladie de la vache folle. C'est la maladie de la vache folle.
C'est absolument horrible. Mais sauf que nous, on peut toujours raisonner et dire qu'il n'y a aucune donnée scientifique. Mais derrière, vous avez Booba, pour ne pas le citer.
Mais j'ai cité tout à l'heure le célèbre rappeur.
6 millions de followers. Vous avez Didier Raoult, etc. Donc, vous avez un monde derrière, plus les médias que vous n'avez pas cités, radio, télé, qui reprennent en boucle cette information-là, en y mettant un point d'interrogation. Mais ceux qui nous écoutent et ceux qui regardent les télés, notamment dans les chaînes continues dont on n'a pas parlé, oublient le point d'interrogation. Ils retiennent un lien qui n'existe pas et qui est effectivement contre-productif des politiques de santé publique. Donc, c'est pas du tout... on n'est pas dans l'analyse d'un phénomène qui n'a pas d'impact. C'est un impact énorme et ça a toujours un impact. Et on peut retourner au vaccin contre la rougeole ou à d'autres, ou à la lutte contre le sida. Mais sauf qu'avec le Covid, ça a pris une ampleur magistrale.
Avec, en plus, l'appui de la technologie numérique qui n'existait pas, on va dire, de votre bon vieux temps du VIH, il y a 20, 30, au tout début 40 ans. Mais on va dire, sur les 20 dernières années, ça n'avait pas la même possibilité. Là, vous le dites, quand on a 6 millions de followers derrière soi, c'est vrai qu'on a une véritable troupe derrière soi.
Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des outils. L'OMS, par exemple, ça ne s'est jamais intéressé à ce qu'on appelle l'infodémie, c'est-à-dire l'épidémie de fausses informations, de fake news. Il faut savoir aussi que la différence entre une fake news et une mauvaise information, c'est que la fake news, il y a une intention de diffuser une mauvaise information. C'est l'intention qui fait la différence. Et l'OMS donne des moyens. On peut retrouver sur le site de l'OMS ce qu'il faut faire, comment vérifier, recouper l'information. Enfin, il y a des techniques pour vérifier quand on est chez soi que cette information-là n'est pas une fake news et vous emmène loin. Parce que vous savez que les moteurs de recherche facilitent ce que vous voulez chercher, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les filtres, les bulles de filtres. Quand vous êtes sur un réseau social, sur Facebook par exemple, plus vous cherchez quelque chose, plus on va vous le montrer. Et sur Google, c'est pareil, vous voyez ce que je veux dire. Alors, donc ça favorise la diffusion de la fake news par l'effet même d'aller la chercher.
Il y a le processus et maintenant il y a la réaction au-delà de la loi. Est-ce qu'il y a des leviers à activer pour mieux lutter contre ces fake news ? Vous avez parlé un petit peu du mode d'emploi de l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, dans le domaine de la formation des personnels soignants, est-ce qu'on peut avancer sur ce point aussi ?
Là, vous prêchez un converti, il y a du boulot. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel je milite plus depuis le Covid, mais j'avais déjà commencé avec le sida, c'est qu'il faut que dans la formation des médecins, il y ait une part qui soit consacrée, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas parler du Covid, qu'on ne puisse pas parler de la rougeole, qu'on ne puisse pas parler de la variole du singe et d'autres maladies, sans avoir un volet communication. Et ça, c'est essentiel. Et même à l'école primaire, il y a un projet de loi pour étendre en France l'éducation civique à l'éducation à l'information, parce qu'il y a des choses à savoir. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, y a des gens qui font de la recherche sur ça, ce qu'on appelle ça l'infodémie, etc. Et il faut que ça soit inclus dans le cursus universitaire des médecins. C'est-à-dire que les médecins savent comment on répond, comment on débobine une fake news. Vous voyez ce que je veux dire, et ça n'est pas fait. Et pourtant, le Covid aurait dû manifestement faire exploser ce secteur-là de la formation des soignants, et pas seulement que des médecins d'ailleurs.
Professeur Pialou, est-ce que vous avez tenté à un moment donné de plus communiquer du tout pour en quelque sorte vous mettre à l'abri?
Ben, c'est ce qu'on fait, par exemple, Karine Lacombe, qui est ma collègue, qui a été aussi
de l'hôpital Saint-Antoine.
Elle a tout d'un coup, elle a repris, mais elle a tout d'un coup arrêté, parce que c'était trop. Elle a eu des plaintes au Conseil de l'Ordre. Et puis, je le répète, je veux dire, quand vous avez passé, je parle du sida, parce que moi, j'ai passé 40 ans, je n'ai pas fini à m'occuper du sida, je n'ai jamais vu une telle violence. Alors que quand même, la maladie elle-même était très violente. Je n'ai jamais vu une telle violence. Bien sûr qu'il y a eu des mouvements un peu avec les associations, etc., qui étaient compliqués. Mais cette violence qu'on a, et puis ce côté quand même très lâche de l'anonymat sur les réseaux sociaux, qui vous arrive par flux, qui met en cause votre probité professionnelle, les conflits d'intérêts, enfin, tout ça, c'est très compliqué à gérer. Oui, il y a eu un moment où je n'ai pas dit stop. Mais j'ai dit, il faut que j'arrête d'y aller tout le temps. De toute façon, je ne pourrais pas répondre. Je ne pourrais répondre à hauteur de ce qui est diffusé.
Et c'est ça, bien la difficulté, parce qu'on voit justement l'amplification des fake news par rapport à finalement la diffusion très très légère justement de toutes ces rectifications. Un grand merci à vous, professeur Pialou, infectiologue et aussi donc romancier. On peut citer ce livre que vous avez écrit, Un don presque parfait, qui est publié aux éditions Mialet Barreau. Est-ce que vous retrouvez dans justement cette invitation en quelque sorte de votre confrère le professeur Pialou, docteur Laurent Chouchana, pour davantage de formation des personnels de santé, aller vers plus de pédagogie, mais aussi connaître un petit peu les ressorts, comment sont fabriqués, élaborés, diffusés ces fake news pour mieux les freiner et les bloquer?
Oui, Gilles Pialou l'a bien dit. Je pense qu'il y a plusieurs versants pour avancer là-dessus. Premièrement, je pense qu'il faut éduquer. Il faut éduquer en fait dès l'enfance, dès l'école. Il faut éduquer à la santé, aux médicaments. Qu'est-ce qu'un médicament? À quoi ça peut servir? Quels sont les risques aussi? La science, même, comment est faite la science? On confond des hypothèses, on les teste, on les vérifie, on les dément, on débat. Tout ça, c'est un raisonnement, je pense, à inculquer dès l'enfance, qui ensuite permet de cultiver un esprit critique. Et n'oublions pas que toutes ces fake news, finalement, actuellement, elles se diffusent. Elles se diffusent sur un manque d'éducation par rapport à tout ça.
Et d'esprit critique.
Oui,
je vous en prie.
Et deuxièmement, il y a l'aspect formation et information qui sont un peu différents. La formation, bien sûr, des collègues, des professionnels de santé. Il faut toujours garder à l'esprit que finalement, quand un patient vient pour se faire vacciner, il a forcément lu, en fait, toutes les informations qui circulent sur les vaccins. On a parlé du vaccin contre la rougeole, contre le Covid. Ils sont au courant de tout ça. Donc, en fait, le nier et faire comme s'ils ne connaissaient rien et dire on vous vaccine, etc., quelque part, ça met un peu le couvert sur la marmite, pardonnez-moi l'expression, et ça évite en fait de discuter de cela. Et il faut discuter, il faut que les médecins s'approprient les arguments pour pouvoir contrer ces informations sans fondement scientifique.
Et réserver un temps de communication. On va poursuivre cet échange, docteur Chouchana. On va se retrouver dans Priorité Santé juste après Kelly Youchis avec Your Teeth to My Neck sur RFI.
I came to fight. What do I do?
Priorité santé sur RFI, comment mettre fin à l'impunité dans le domaine de la désinformation en santé? Les parlementaires français vont-ils se mettre d'accord pour contrer ce qui écarte les individus des parcours de soins? Toujours en compagnie du docteur Laurent Chouchana, praticien hospitalier, responsable du Centre régional de pharmacovigilance de l'hôpital Cochin à Paris. Docteur Chouchana, est-ce qu'il y a aujourd'hui au niveau des plateformes, des réseaux sociaux, une forme de surveillance, un petit peu des jalons ou des limites posées en matière de santé?
Eh ben, je pense que c'est exactement quelque chose qu'il manque actuellement. La première action pour agir contre les fake news, c'est d'abord de diagnostiquer, d'identifier en fait. On n'a pas suffisamment pour l'instant de moyens pour identifier précocement des informations qui commencent à circuler, qui sont fausses, qui sont non fondées, qui sont dangereuses. Et en fait, souvent, quand on s'en rend compte, c'est qu'il y a déjà beaucoup de followers, beaucoup de likes, beaucoup de bruit autour de ça.
Ça veut dire qu'il faudrait une forme de veille sanitaire des infodémies, quoi, pour surveiller et pour voir comment ça part. Parce que ça peut aller loin.
Ça peut aller loin. Tout cela est bien sûr dangereux. Parce que pourquoi on s'intéresse à tout cela? C'est parce que ces informations, ensuite, amènent des dangers pour la santé publique et pour les patients en tant que tels. Je veux dire, ça éloigne les patients de traitements contre le cancer, de vaccins. Ça les met dans des pratiques alimentaires particulières, du crudivorisme, etc. Enfin, je ne vais pas les citer ici. Mais tout cela, finalement, est dangereux pour la santé. Et on a besoin, je pense, de pouvoir identifier précocement ces messages qui fleurissent, dès qu'ils fleurissent, avant qu'ils puissent se diffuser largement.
Dans votre expérience personnelle, est-ce qu'il y a des désinformations, des fake news qui vous préoccupent ou qui vous concernent particulièrement?
Oui, alors sur les vaccins, évidemment, comme l'a dit Gilles Pialoux, les vaccins notamment. Les vaccins ont de tout temps été à l'origine de fake news ou d'informations erronées, depuis que la vaccination existe finalement. Depuis que la vaccination existe, administrer une substance à une personne en bonne santé en vue de le protéger d'une future maladie hypothétique, ça a toujours été une source de débat et c'est intéressant. Néanmoins, il y a toujours eu des fausses informations pour contrer la vaccination. Et là, avec les vaccins Covid, on l'a vu au quotidien. Donc moi, je travaille dans un centre de pharmacovigilance où on reçoit des déclarations de suspicion d'effets indésirables qu'on va documenter, qu'on va évaluer.
Qui peuvent exister, hein, personne ne l'a nié, ça peut exister.
Exactement, qui peuvent exister, qui existent. Il y a des effets indésirables qui existent, qui sont reconnus, d'autres qui sont douteux, on ne sait pas très bien, d'autres évidemment qui ne sont pas des effets indésirables. Et dans ce domaine-là, en tout cas particulièrement la vaccination et le Covid, ça a été l'apoptose des fake news. On a parlé du Crossfit Jacob jusqu'à...
Tout à l'heure, voilà.
On a parlé aussi du cancer avec un certain praticien hospitalier qui disait juste que lui, dans sa pratique, c'est un cancérologue qui disait qu'il ne voyait pas plus de cancer et qu'il n'y avait pas de lien. Toutes les sociétés savantes ont dit également qu'il n'y avait pas de lien, en tout cas ceux qui sont concernés, mais des personnes médiatisées, parfois des politiques, parfois des savants en blouse blanche du sud de la France ou d'ailleurs, vont dire que ça existe. Et donc là, cette parole-là prend plus de poids que la parole consensuelle.
Justement, cette amplification, utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer les contre-vérités sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu ce que vous faites et de longue date sous le pseudonyme To Be or Not To Be. Docteur Nicolas Winter, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes pédiatre aux urgences du centre hospitalier de Valenciennes, urgence pédiatrique. Aujourd'hui, on peut vous retrouver, je ne vais pas faire votre publicité, mais c'est pour savoir aussi sur quel réseau social?
On peut me retrouver sur plusieurs réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, on se met même aux trucs les plus modernes, Blue Sky, Threads, etc. Et même Twitter, enfin X maintenant, on dit quand on est jeune, mais une grande variété de réseaux sociaux, on va dire.
Et aussi en librairie avec Le Bisou Magique Existe-t-il, un guide pour trier le vrai du faux en pédiatrie aux éditions First. Cette désinformation en pédiatrie aujourd'hui, qui la véhicule?
Alors, la désinformation dans la pédiatrie, en fait, il y a un condensé de ce que tous mes collègues viennent de dire précédemment. Vous avez finalement quelque chose qui était déjà bien enraciné auparavant dans tout ce qui était groupe de parole de maman, etc., où on s'est autodiagnostiqué à tour de bras. Mais en fait, ces groupes, en fait, maintenant ont un peu une résonance sur les réseaux sociaux par rapport aux groupes Facebook, par rapport aux espaces Instagram, aux influenceurs, comme disaient mes collègues, par rapport également, et il faut bien le dire, et pour moi, c'est une des principales choses à retenir, de deux vecteurs principaux, les médias grand public, qui vont faire, dès qu'ils vont avoir une fake med à publier, quelque chose de fake qui revêt de la fake news, en fait, vont faire beaucoup de mal. Et puis, vous avez, parce qu'il faut faire son autocritique, un énorme problème dans la profession de soignants, au sens large, qu'il y a une médicale ou paramédicale, qui vont donner une crédibilité à ces fake med, fake news.
Ça veut dire, si le médecin l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est vrai dans un sens et c'est vrai dans l'autre. Vous ne jugez pas, vous dites, vous essayez de contrebalancer ces contre-vérités, mais il faut trouver les arguments qui vont matcher, comme on dit. Parce que si ça se passe bien sur les réseaux sociaux, c'est qu'aussi certaines choses, certaines informations ont plus de facilité à passer et à attirer l'adhésion.
Oui, tout à fait. En fait, c'est le principe de ce qu'on va appeler la vulgarisation grand public. Alors, la vulgarisation grand public, c'est ce que je fais depuis un certain temps. Et il faut bien comprendre que les gens, alors peut-être par rapport au fait qu'on a une éducation défaillante aussi, hein, comme on disait auparavant, n'ont pas forcément toutes les clés pour comprendre une science moderne qui est de plus en plus compliquée, de plus en plus abstraite. Et je pense qu'il faut arriver à employer des concepts simples, qu'il faut arriver à dire les choses simplement, parce qu'on n'a pas tous, on n'a pas tous fait des années de médecine. Dieu merci, hein, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient une vie normale dans ce pays. Mais il faut aussi comprendre que les gens ont besoin d'un discours clair et qu'ils ne demandent pas non plus des diplômes à n'en plus finir, qu'ils comprennent sans qu'on le soit condescendant envers eux. Mmh. Parce que je ne pense pas qu'il y a vous n'avez pas forcément besoin d'être condescendant, vous n'avez pas forcément besoin de prendre les gens de haut pour leur expliquer les choses simplement. Je pense que c'est même un devoir, en fait, du médecin, c'est de l'information aux patients.
Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Prendre les gens de haut, quand on fait 1m58, c'est très difficile. Alors, comme pédiatre, vous travaillez aux urgences. Est-ce que certaines de ces fake news, eh bien, elles arrivent jusqu'à votre service des urgences? Et là, on va avoir une illustration que ça peut être particulièrement grave ou préoccupant de diffuser des informations bidons, en particulier pour la santé des enfants.
Nous, vous voyez, je vais rester raccord avec mes collègues auparavant pour faire quelque chose de quand même très simple. On va continuer sur les vaccins parce que, en effet, c'est quelque chose de très classique, mais qui est toujours visible aujourd'hui. C'est-à-dire que, avant la crise Covid, nous avions déjà des problèmes vaccinaux. On sait, on a dû imposer une vaccination obligatoire parce que il y avait une recrudescence déjà de la désinformation à ce propos. Mmh. Et après la crise Covid, là, c'est un plein boom. Vous voyez des enfants arrivés qui ont 9, 10, parfois 18 mois, j'en ai déjà vu, qui n'ont aucun vaccin. Et quand je dis aucun vaccin, c'est même pas la diphtérie, tétanos, DTP habituel.
Et on le rappelle, ce sont des vaccinations obligatoires.
Oui. Et vous avez, en fait, finalement, vous avez cette chose qu'on retrouve très couramment dans la réalité ou sur les réseaux. Nous ne sommes pas anti-vax, on est en queue contre le vaccin, contre le Covid. Voilà. Et puis après, ces gens, finalement, vous les retrouvez. Ah bah oui, mais le vaccin HPV, papillomavirus, c'est pas bien. Ah oui, mais la rougeole, c'est pas bien. Ah oui, en fait, vous avez ces conséquences qui vont s'abattre sur les parents, qui vont se mettre à douter parce qu'ils sont vulnérables et parce que, en fait, ils se disent qu'avec de plus en plus d'informations comme ça sur le net, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité quelque part? C'est quelque chose qui va retentir sur les urgences. Vous voyez des enfants qui viennent malades, qui n'ont aucun vaccin. Et là, les parents, la plupart des parents qui n'ont pas fait les vaccins, ne sont pas forcément des anti-vax convaincus, mais ils vont être affolés parce que du coup, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une bêtise, une grosse bêtise.
Alors, vous parlez aussi d'exemples concrets, on va dire plus légers, dans votre livre. Et justement, vous avez ce ton pour faire passer le message, l'humour. Est-ce que ça marche avec l'humour? Est-ce que finalement, ça prend mieux?
Mais tout marche avec l'humour, tout marche mieux avec l'humour. Je pense qu'on sait tous, dans la vie là, tous les jours. En fait, je me suis aperçu juste au fur et à mesure de mes années d'exercice que plus vous allez essayer de faire la morale aux gens, plus vous allez aller vers eux au clash, comme on pourrait dire, en fait, plus vous allez les braquer. Ils ne vont plus vous écouter de toute façon. Par contre, si vous essayez de faire passer ça sous la forme de l'humour, en essayant de prendre les gens sous un autre angle, sans être agressif, vous allez forcément gagner quelque chose qui va être de l'ordre de la sympathie. Et la sympathie, en fait, c'est primordial si vous voulez que les gens vous écoutent. Si vous vous mettez à dos votre interlocuteur d'emblée, en fait, il ne va pas vous écouter. Donc l'humour, je pense que c'est un super moyen pour arriver à inculquer des choses aux personnes.
Et justement aussi distinguer ce qu'on va appeler les vraies fake news, hein, tout ce qui peut être particulièrement dangereux, de ce qui relève de la croyance. Travailler sur ces croyances, essayer aussi de chercher à l'origine ce qui a bien pu provoquer cette idée saugrenue, pas forcément la démonter directement, mais y aller progressivement. Une forme, là encore, de pédagogie.
Oui, il y a un continuum entre les deux, entre la croyance populaire. C'est pour ça qu'on voilà, moi j'ai parlé, c'est pour ça que ça s'appelle Le bisou magique, mon nouveau ouvrage, tout simplement parce que on oublie, il y a des choses qui existent. dans les croyances populaires, par exemple ce fameux bimo magique, mais on ne sait plus comment ça marche. On a une vague idée. Et je pense qu'il y a un continuum entre ces croyances où on ne cherche plus à comprendre pourquoi ces croyances existent, et finalement l'arrivée de fake news où on arrive à une marche supérieure. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont se retrouver face à des informations erronées ou des disciplines qui n'ont rien de scientifique et n'arriveront plus à comprendre et ne vont plus aller chercher à comprendre parce que, ben, en fait, c'est la pensée magique. Et revenir sur ces croyances, mais c'est pas forcément les insulter, c'est peut-être aussi juste les remettre en contexte et les réexpliquer parfois.
Les réexpliquer et aussi aller chercher les informations sur les bons sites et sur les bons réseaux sociaux, on va dire. Un grand merci à vous, docteur Nicolas Winter, pour toutes ces explications. Ces sites internet, on l'a entendu, il y a aussi la question, c'est vrai que ça peut être un vrai problème, les forums, parce que finalement, s'exprimer, avoir une libre parole en santé, ça peut être très constructif, partager des expériences, surtout entre patients. Mais là, comment est-ce qu'on fait quand on a des forums, docteur Laurent Chouchana, vous qui êtes toujours avec nous en studio, quand on a des informations qui s'échangent et qui peuvent monter en fait en épingle et devenir de véritables fake news, parce qu'il y en a partout en fait de ces réseaux et de ces forums.
Mais ces échanges, ces plateformes de discussion et ces forums, c'est plutôt bien finalement. C'est plutôt bien que les personnes continuent à discuter, que ce soit au bistrot du coin, que ce soit sur Internet, dans la cour d'école, peu importe. Ce qu'il faut ensuite, c'est que les personnes, le grand public, puisse avoir des sites de référence, des informations validées, où ils vont pouvoir aller confronter ce qu'on leur a dit au café du coin et voir si finalement ce qu'a dit un tel sur les vaccins, parce qu'on voit sur les vaccins et le risque d'autisme ou je ne sais quoi, est-ce que c'est vrai ou pas? Et donc, je pense qu'actuellement, on manque, et c'est aussi un des plans d'action qu'on devrait mettre en place pour lutter contre les fake news, on manque de sites d'information fiables, validés. Pour les vaccins, ça a été quand même plutôt bien fait. Là, on commence à avoir des choses intéressantes avec le site Vaccin Info Service, qui est un site officiel. Mais en tout cas, on manque de sites d'information grand public de la part des sociétés savantes.
Et y compris attractifs, je dis ça parce que moi qui vais tous les jours préparer mon émission en allant sur les sites, etc., il y en a qui sont très bien faits. Il y en a, franchement, faut y aller pour les lire. Parce que c'est pas franchement rigolo. Je dis pas ça pour moi. C'est pas le même métier. Mais pour le grand public, il faut avoir envie quand même.
Je suis entièrement d'accord avec vous, et y compris moi en tant que professionnel de santé scientifique, j'ai parfois du mal à trouver l'information que je recherche sur des sites officiels. On a besoin d'avoir un effort collectif de pédagogie, de communication. Les anglo-saxons font ça mieux que nous, je pense qu'on peut le dire. Si vous allez voir des informations sur les vaccins, notamment les vaccins Covid, sur le site de la FDA aux États-Unis, qui est l'agence réglementaire, ou sur d'autres sites officiels, il y a un effort de communication qui est fait avec des images, avec des termes qui sont vulgarisés. Et donc, on a besoin d'avoir des gens experts, donc les sociétés savantes, qui sont des regroupements d'experts plus ou moins sachants sur une thématique, en tout cas au niveau médical, qui communiquent pour le grand public des informations fiables, validées, sur lesquelles on peut se référer.
On va maintenant partir, si vous le voulez bien, pour le Cameroun.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Et on vous retrouve en ligne de Yaoundé, docteur Mkwa, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes médecin épidémiologiste, fact-checker spécialisé en santé. Vous êtes aussi la présidente de l'ONG Yoeda, qui est engagée dans la santé et la protection de l'environnement. Docteur Mkwa, quand on est fact-checker dans le domaine de la santé aujourd'hui au Cameroun, à quel type de fake news s'attaque-t-on?
Merci Caroline. Déjà, merci de nous avoir invité à cette émission. Effectivement, lorsqu'on est fact-checker dans le domaine de la santé au Cameroun, on fait face à une multitude de fake news. Généralement, on peut classer celles-ci en deux. Il y a des fake news qui ont pour but de nuire, notamment dans le cadre de la désinformation. Et puis, il y a des fausses informations qui sont partagées juste pour le plaisir ou bien parce qu'on a jugé que c'était utile de le faire. Généralement, lorsque vous avez des informations qui ont pour but de nuire, vous avez beaucoup d'informations, notamment en matière de fake news contre les vaccins. Vous avez les fake news contre les vaccins, contre le paludisme, contre le Covid-19. Vous avez
ça veut dire tout ça, aller contre la parole médicale, c'est là au sens où vous dites quand on veut nuire, c'est cela, c'est aller contre la parole scientifique.
Exactement, aller contre la parole scientifique ou bien dans le but de manipuler les populations, dans le but de changer le comportement à une fin précise.
Alors, quels sont les principaux vecteurs de ces fausses nouvelles en santé sur la place camerounaise? On imagine que c'est via les smartphones, des sites, c'est ça?
Exactement, Caroline. Vous avez beaucoup de réseaux sociaux qui sont impliqués dans ce partage de fausses informations. Vous avez beaucoup d'informations sur Facebook, Twitter et aussi dans les forums WhatsApp. Vous avez beaucoup d'informations qui sont partagées dans les groupes de famille, dans les groupes d'amis qui partagent des informations souvent pour donner des recettes, donner des astuces, mais qui ne sont pas forcément vérifiées.
On peut dire qu'il y a ce recours parce que ça simplifie la vie, mais aussi parce qu'il y a une réalité sanitaire et sociale au Cameroun. C'est la difficulté d'accès à la santé. C'est vrai que là, ça nous met dans une situation un petit peu différente par rapport à ce dont on a parlé en France, mais c'est vrai que quand la santé n'est pas remboursée, quand les médecins, les spécialistes en particulier, ne sont pas forcément accessibles, ça doit encore renforcer ce recours aux fausses nouvelles en santé.
Oui, Caroline, en fait, il y a plusieurs facteurs qui favorisent la propagation de fake news. Notamment, on a parlé des réseaux sociaux, on a la désinformation libérée. On a aussi beaucoup de lacunes en matière d'éducation et les inégalités d'accès à l'information. Donc, vous avez par exemple des personnes qui n'ont pas du tout d'accès aux informations parce qu'ils ne sont pas proches d'une formation sanitaire ou bien il n'y a pas de personnel de santé accessible. Et on a également des facteurs intrinsèques aux individus. On peut parler notamment des biais cognitifs qui sont des mécanismes de la pensée qui causent une déviation du jugement. Vous allez par exemple avoir des biais de confirmation ou bien des biais de négation parce que de négativité parce que le cerveau humain va davantage prêter attention aux informations qui nous effraient ou qui nous déstabilisent par rapport à des informations qui sont jugées vraies d'office.
Alors c'est vrai qu'aussi dans le contexte camerounais, il y a aussi un autre paramètre essentiel dont il faut tenir compte, ce sont les tradipraticiens. On a Saifoulaye, lui, qui nous envoyait ce message de Guinée, parce que c'est la même chose en Afrique de l'Ouest. Chez nous, souvent, il écrit, les tradipraticiens font des publicités à la radio en utilisant les mêmes enregistrements plusieurs années. Ils donnent la parole à un patient qu'ils ont soi-disant guéri, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas s'il y a eu d'autres patients guéris depuis. D'autres tradis affirment que c'est après des soins réussis qu'on paye, mais une fois dans leur local, eh bien c'est tout à fait le contraire. Alors est-ce que ces communications ne seront pas dangereuses pour les populations? Je vous laisse répondre, vous la spécialiste médecin qui exerce au Cameroun, docteur Nkwa. Est-ce que vous êtes toujours avec nous en ligne de Yaoundé? Docteur Nkwa, est-ce que vous êtes avec nous à l'écoute?
Allô?
Est-ce que vous avez entendu le message de notre auditeur de Guinée qui s'interrogeait sur certaines pratiques des tradipraticiens?
Vous pouvez reprendre quelques secondes.
Oui, parce qu'il disait qu'il y a certains patients, il y a des enregistrements qui passent à la radio, les patients disent qu'ils ont guéri. Il y a des tradis qui disent « vous ne paierez qu'après résultat ». Quand on va justement en consultation, on se rend compte qu'on nous demande l'argent avant les résultats. Et cet auditeur, Saifoulaye de Guinée, demande si ça, ce n'est pas dangereux pour les populations.
Effectivement, c'est dangereux parce que très souvent, ce sont des informations qui ne sont pas vérifiées. Il y a au Cameroun et notamment en Afrique, on a ce problème avec les recettes, avec ces pratiques qui sont vulgarisées, qui sont jugées saines de base parce que ça provient de la pharmacopée traditionnelle. Le souci, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études poussées qui accréditent ces informations. Donc, on attire vraiment l'attention des auditeurs à faire attention à toutes ces recettes, à tous ces tradipraticiens qui, même si parfois, ils pourraient avoir des produits de qualité, on n'est pas encore au stade où cela est validé, vérifié et possible de mettre à la consommation de tout un chacun sans courir un risque pour la santé. Je me permets de donner un exemple. Vous avez, par exemple, au Cameroun, on est en épidémie de choléra et il y avait des fausses informations qui circulaient comme quoi vous avez le sucre avec du vinaigre qui protégerait contre le choléra. Maintenant, la difficulté lorsque vous luttez contre ces fausses informations, c'est que même si vous allez faire appel à des experts, vous allez regarder dans la littérature scientifique, vous n'allez pas trouver d'articles scientifiques ou bien de preuves que c'est vrai, mais vous ne pouvez pas non plus dire à 100% que ce qui est partagé comme information est faux. Donc c'est vraiment...
En revanche, si vous me permettez cette blague de mauvais goût, le sucre et le vinaigre, c'est très très bien pour attraper les mouches. Voilà. J'ai une dernière question parce que là, c'est beaucoup plus sérieux. Est-ce que vous avez trouvé des initiatives pour retisser un lien entre la population et le personnel de santé, des choses qui marchent, des méthodes qui fonctionnent?
Oui, Caroline, il y a plusieurs initiatives et actions qui sont mises en place pour lutter contre les fake news en matière de santé. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation qui sont organisées, des collaborations entre les médias, les professionnels de santé et les plateformes de vérification de faits qui sont mises en place. Nous, par exemple, au niveau de Yoweda, on fait de la recherche pour avoir quels sont les déterminants en matière de fake news en santé au Cameroun. Mm-hmm. On organise également des campagnes d'éducation aux médias, à l'information en matière de santé. On fait de la vulgarisation scientifique. Et actuellement, on est sur un projet dans le cadre d'un appel conjoint de l'Organisation internationale de la francophonie avec l'agence Science Presse et l'association Journalisme et Citoyenneté pour justement mettre à disposition des cours pour la lutte contre la désinformation scientifique pour les professionnels des médias scientifiques.
Ça veut dire que l'action communautaire, ça compte énormément en la matière. Un grand merci à vous pour toutes ces explications. On arrive à la conclusion de notre échange. Docteur Laurent Chouchana, vous, vous débunkez quoi ? Vous avez parlé des vaccins tout à l'heure. Vous débunkez quoi en ce moment comme fake news à titre personnel, à part justement, non pas forcément débunker, mais plutôt convaincre, hein, on va aller plutôt dans l'autre sens, sur les vaccins. Il y a quoi d'autre que vous entendez qui circule et qui vous laisse un petit peu interloqué ? C'est vrai qu'il y a tout un questionnement, par exemple, sur les médecines naturelles. Comment est-ce qu'on détermine ce qu'est un véritable soin de support efficient, efficace, bénéfique, et une médecine naturelle un petit peu charlatanesque ?
Ben, je crois qu'effectivement, tout le champ de la médecine naturelle, de la paramédecine, est un domaine qui est de plus en plus concerné par les fake news. En préparant l'émission, j'ai un chiffre qui m'a interpellé. 40% des signalements qui sont faits à la Miliviudes, donc la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, sont liés au domaine de la santé. Mmh. 40%. Donc près d'un Français sur deux qui va rentrer dans une pratique sectaire va l'être à cause d'une pratique en lien avec la santé. Et on a différents domaines, notamment le cancer, où il y a de très nombreuses pratiques qui sont complètement non validées et dangereuses pour les patients. Encore une fois, je reviens à ça. Le problème qui me dérange, c'est pas que ce soit forcément non validé, c'est que c'est dangereux pour les patients. Donc on a besoin d'outils pour développer l'esprit critique et de plateformes d'information sur qu'est-ce que sont ces pratiques. Et j'ai pas envie de les citer ici pour leur faire de la pub, mais ces pratiques qui sont dangereuses et qui pourraient amener à éloigner les patients d'une médecine qui va les soigner.
Et aussi aller vers des troubles, par exemple, du comportement alimentaire, ça peut exister aussi. Mais c'est vrai qu'aussi, du côté des médecins, ce sera le mot de la fin, il y a aussi tout un travail. Expliquer, faire preuve de pédagogie, mais c'est vrai que ça prend du temps et les médecins aujourd'hui, du temps, les médecins n'en ont pas beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour être à la fois clair, intéressant, attractif et juste au niveau scientifique ? C'est un défi.
Tout ça à la fois.
Tout ça à la fois. C'est votre job, docteur.
Vous l'avez dit tout à l'heure, le médecin, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vous qui l'avez dit. Et vous avez raison, en fait. Quand on a une blouse blanche, quand on a un titre de docteur, de professeur, ça nous engage, ça nous oblige. Et on sait que la parole qu'on promeut, la parole qu'on diffuse, que ce soit dans le cadre d'un entretien individuel ou dans le cadre de médias, on sait que tout ça a des conséquences et que ça nous donne crédibilité. Et donc, ça engage en même temps à avoir une éthique sur l'information qu'on communique. Et puis surtout, ce qui a changé, et puis on en a parlé un petit peu dans l'émission, ce qui a changé, c'est qu'autrefois, ou en tout cas il y a quelques années, où le médecin avait une parole docte, en fait, et donc il transmettait un savoir un peu de manière verticale. On n'est plus dans ce temps-là, on est dans une période où l'information diffuse, une période de communication horizontale, et donc on a besoin de faire de la pédagogie, d'expliquer aux patients pourquoi ce traitement est bénéfique et pourquoi l'autre ne l'est pas.
Donc c'est la confiance et c'est l'alliance thérapeutique, on en parle souvent. Un grand merci pour cet éclairage, docteur Chouchana, travail de longue haleine, vigilance et pédagogie, avant de se dire tout à fait au revoir. Good problem, c'est Clay and Friends dans Priorité Santé sur RFI.
Pardon, poète, lambonini, na.
Priorité santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Louis Kaledek, Talim Pou, Damien Roucou, Pauline Berthélémy et Lorraine Nemoza à la réalisation. Demain, nous allons parler des complexes physiques, psychologiques, sociaux. Quelles sont les conséquences que peut entraîner cette perception déformée de soi-même? Comment se débarrasser de ces complexes? On se donne rendez-vous, bien sûr, avec toutes vos questions, vos témoignages et les réponses de nos invités. Dès 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.